Spiegelman. Mieux que Superman.
Mieux que Batman.
Il est le meilleur. Jésus est mon super-héros. Mon étoile, mon ami. Jésus est mon super-héros. Mon étoile, mon ami.
Batman a toujours été un de mes héros préférés. Sans doute parce qu'il semble le plus abordable, au sens en fait où c'est le seul qui n'a pas de super pouvoir. Ah. Être un héros, voilà un bel objectif. Quelle est la clé pour devenir un héros? Voilà une belle question. Steven s'est posé cette question et on a découvert avec lui ce qui ne suffisait pas pour faire de nous des héros. La popularité, la force, l'argent et ainsi de suite. Et on l'a laissé un peu découragé parce que pas facile de répondre à cette question. Et alors on pourrait se dire que tant pis, que c'est pas si grave après tout si on n'a pas la réponse, que l'on va plutôt vivre notre petite vie tranquillement et qu'on va laisser les super-héros pour les films à gros budget ou alors pour les rêves des enfants. C'est sûr, pourquoi pas. Mais pourtant, aurions-nous raison de faire cela? Aurions-nous raison de ne pas chercher à vivre une vie héroïque? Il faudrait peut-être se demander ce qu'en pense Dieu. Car Dieu parle de l'héroïsme. Et même, il en parle en bien. En fait, la Bible est pleine de héros et d'histoires de héros. C'est, Paul l'a dit, le sujet de notre année au groupe de jeunes. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à lire à ce sujet le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux qui en dresse toute une liste, les fameux héros de la foi. Et alors, c'est intéressant. Savez-vous comment conclut l'auteur de cette lettre après avoir énuméré tous ces différents héros? Il conclut en disant « C'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Nous aussi, sous-entendu, suivons leur exemple, soyons comme eux, faisons comme eux. L'héroïsme ne serait donc pas tout à fait une utopie ou une fiction? L'héroïsme ne serait peut-être finalement pas réservé qu'aux super-héros? Alors bien sûr, l'héroïsme selon Dieu, celui dont on parle ici, et celui auquel, je crois, on est effectivement tous invités, cet héroïsme-là n'aura sans doute pas tout à fait la même définition qu'au cinéma. Mais pour autant, soyons-en sûrs, ça n'en sera pas moins de l'héroïsme. Et l'impact sur le monde pourrait même en être aussi grand. Qui sait ? Être un héros selon Dieu. Je nous invite ce matin, à travers la Bible, à travers ces histoires comme celles que nous avons lues et à travers ces enseignements, je nous invite à suivre Steven dans sa quête et à enrichir avec lui notre conception du véritable héroïsme. L'héroïsme selon Dieu. Je vous propose de suite de mettre fin à tout suspense et je prends le risque de vous en donner une définition. Et je vais même en tenter une minimaliste. Être un héros selon Dieu, c'est dépendre de lui en toute chose. Pas plus, pas moins. Alors je le sens, certains d'entre vous sont un peu déçus. Parce que vous vous imaginiez sans doute une définition un peu plus héroïque. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas déçus trop rapidement, car même si elle n'en a pas l'air, je suis persuadé en fait que rien n'est plus héroïque que cette définition-ci. Et que tout le reste, tout, sans exception aucune, découle uniquement et exclusivement de cette réalité. Être un héros selon Dieu, c'est dépendre de lui en toutes choses. C'est parce qu'il a fait cela que Joseph est devenu si grand en Égypte. C'est parce qu'il a fait cela que David a vaincu le géant Goliath. Et même, c'est parce qu'il a fait cela que Zachée a osé venir à Jésus, mais pour ensuite, vous l'avez remarqué, donner une grande partie de son argent aux autres, quand on disait que l'impact pouvait être grand. La dépendance à Dieu, un mot tellement central dans la foi chrétienne. Et Jésus le confirme, notamment dans un passage des évangiles, je ne le lis pas en entier, mais juste quelques extraits. Il se trouve dans Jean 15, c'est la célèbre parabole du cep et des sarments, et c'est Jésus qui parle. « Je suis le vrai plant de vigne, dit-il, et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Demeurer en Christ. Une autre façon, je crois, de dire dépendre de lui. Sans cela, on ne peut rien faire. Et il n'est pas dit qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais rien. Mais au contraire, avec cela, il y a non seulement du fruit, mais du fruit en abondance. Un fruit de super-héros, en fait. Oui, si nous voulons, conformément à cet appel qui nous est lancé, devenir des héros selon Dieu, chacun à la mesure de ce que Dieu a prévu pour lui, eh bien, il nous faut donc apprendre à demeurer en Christ, à dépendre de lui et entièrement de lui, à laisser sa sève, celle du cep, prendre toute la place en nous. C'est la seule recette pour vivre une vie chrétienne héroïque, et même juste simplement une vie chrétienne authentique, aller dans cette direction de la dépendance. Chers amis, allons-y, et allons-y tous ensemble. Mais peut-être pour y aller, avons-nous besoin de creuser un peu et de voir concrètement ce que cela veut dire que de dépendre de Dieu ou de demeurer en lui. Quelle réalité tangible pouvons-nous mettre derrière ces quelques mots? Et je voudrais ce matin vous en proposer trois. Trois vérités qui, équilibrées ensemble, vont venir former ce que j'appellerai le cercle vertueux de la dépendance à Dieu. Un cercle qui nous fera tourner et tourner encore pour entrer dans la danse d'une vie qui demeure en Christ, d'une vie profondément dépendante. Mais nous allons le voir, et on le sait déjà par expérience. Danser dans ce cercle, c'est-à-dire dépendre toujours plus de Dieu dans notre vie, est et sera toujours un véritable défi, si loin de nos tendances naturelles. Mais nous parlons d'héroïsme, n'est-ce pas ? Et c'est ici que nous allons le trouver. Alors, le premier élément que je voulais relever avec vous sera celui qui consiste à demeurer dans la grâce. La grâce, premier joyau de la dépendance à Dieu. Premier rouage pour que notre cercle puisse tourner. C'est une telle évidence, pourrions-nous dire. Mais on pourrait quand même se demander pour quelles raisons, et je vous propose deux raisons. Tout d'abord, parce qu'elles nous amènent à lâcher prise. Dépendre de la grâce de Dieu, c'est reconnaître que nous sommes faibles et limités, et que seul, on n'y arrivera pas, qu'on n'y arrive pas. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, disait Jésus. C'est un appel à l'humilité qui nous dit que le chemin vers l'héroïsme est en fait, paradoxalement, un chemin où on prend conscience que l'on n'a rien d'un héros et que l'on ne peut, bien sûr, ni se sauver, ni devenir meilleur par nous-mêmes. Et puis aussi, la grâce, parce qu'elle nous amène à la liberté, avec encore ici un paradoxe. parce qu'on aurait pu imaginer que se mettre entièrement sous la dépendance de quelqu'un aurait justement pour effet de nous rendre moins libres. Mais non, dépendre de la grâce vient nous extraire du carcan de la loi, des mérites ou des principes de rétribution pour venir nous offrir la vraie liberté, la liberté d'agir, la liberté de faire le bien volontairement et avec joie. Oui, la grâce de Dieu, par son invitation au lâcher-prise et à la liberté, une invitation qui se renouvelle d'ailleurs au quotidien, est l'unique moyen pour nous de sortir de schémas marqués par la tension ou la crispation, marqués par le devoir ou le perfectionnisme, marqués finalement par un pseudo-héroïsme destructeur. Dépendre de la grâce de Dieu est vital pour nous sortir de ces choses et pour venir faire jaillir en nous des fleuves d'eau vive qui pourront ensuite inonder le monde. Et en ce sens, je trouve que l'histoire de Zachée illustre bien cette réalité. Zachée, chez qui on découvre à la fois ce lâcher-prise sur son existence passée, quand il ose monter sur l'arbre, et puis aussi cette liberté qui vient se traduire dans sa vie avec cette restitution au quadruple, selon les propres résolutions de son cœur, sans que rien ne lui soit commandé, juste parce qu'il a touché à la grâce. Oui, au contraire des pharisiens, Zachée s'est extirpé de son carcan pour dépendre de la grâce, et cela a fait toute la différence. Et il est un témoin pour nous. Voulons-nous grandir dans la dépendance? Alors, grandissons dans la grâce. Voulons-nous devenir des héros selon Dieu? Alors, vivons sa grâce au quotidien. Et par elle, goûtons à la sérénité du lâcher-prise et à cette liberté qui viendra déborder en nous. Voilà pour le premier point. Et je passe maintenant au deuxième élément de notre cercle qui va être dépendre de sa volonté. Et une nouvelle fois, c'est un peu une évidence. Celui qui veut dépendre de Dieu et qui veut demeurer en lui est naturellement appelé à se soumettre à sa volonté, à la rechercher et à la suivre. On aborde ici en particulier la question de l'obéissance, et qui pourrait presque sembler en décalage avec ce qu'on vient de dire sur la grâce et la liberté, mais qui en fait se conjugue parfaitement avec ce premier point. Parce que la sérénité de la grâce et le sérieux de l'obéissance sont appelés à se vivre ensemble comme les deux faces de cette pièce qu'est la dépendance à Dieu. Et une vie dirigée par l'un sans l'autre ne pourrait être que bancale. La sérénité de la grâce sans le sérieux de l'obéissance ne serait qu'une sorte de prétexte facile. Le sérieux sans la sérénité ne serait qu'une version déguisée d'un nouveau légalisme. Alors qu'ensemble, ensemble, il nous montre parfaitement la direction à suivre. Ensemble, il nous invite à cette marche à la suite de Jésus, avec persévérance et résolution d'un côté, et de l'autre, avec la paix, la liberté, on l'a dit, ces fleuves d'eau vive qu'elles feront naître en nous. Les deux faces d'une même pièce. Mais je reviens maintenant plus particulièrement sur ce deuxième point. Dépendre de Dieu, c'est donc aussi persévérer dans l'obéissance à sa volonté, dans la dépendance à ses enseignements. Et Jésus lui-même nous montre l'exemple. Dans l'évangile de Jean, il dit « Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. » Jésus était soumis à la volonté et à l'enseignement de son Père, d'une manière sans doute tout à fait propre au mystère de la Trinité. Et nous sommes invités aussi à prendre ce chemin, car il n'existe pas de héros loin des commandements de Dieu. Et quoi de mieux pour illustrer cela que l'histoire de Joseph ? Ce pauvre Joseph, quand même, qui, perdu en Égypte, avait pourtant tellement de bonnes raisons, entre guillemets, de ne pas obéir. si loin de l'affection de son père, si meurtri par la trahison, on l'a lu, de tous ses frères sans exception, si seul, esclave dans un pays étranger. Et voilà qu'à ce moment de sa vie, une femme, la femme de son maître, vient s'offrir à lui, quand il avait le plus besoin d'amour. On comprendrait presque qu'il s'y laisse prendre. Mais non, lui a choisi, bien qu'il n'en voie absolument aucun avantage pour lui-même, lui a choisi de ne pas faire un seul écart au commandement de Dieu. Même si en plus il devra passer à cause de ça 2 années en prison. Mais ce sera, on le sait, le point de départ qui va l'amener à devenir un des grands héros de l'Antiquité. Il est un témoin pour nous. Voulons-nous grandir dans la dépendance? Alors, persévérons dans la volonté de Dieu. Voulons-nous devenir des héros selon Dieu? Alors, continuons de croire que l'héroïsme ne peut se trouver que sur les chemins d'obéissance. Grâce, obéissance. Et je passe maintenant au troisième point, au troisième élément de notre cercle. Dépendre de son action. Apprendre à dépendre de Dieu, c'est aussi apprendre à dépendre de l'œuvre que lui est en train d'accomplir en nous. Comme nous le rappelle ce magnifique verset de l'apôtre Paul, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Dépendre de Dieu, c'est donc s'attendre à ce que lui agisse réellement et concrètement dans notre vie. Et alors, c'est un troisième point qui pourrait paraître un petit peu étonnant quand même, parce qu'il semble nous encourager à la passivité. Alors qu'on le sait, nous avons notre rôle à jouer, notamment, on l'a dit, pour apprendre à rester dans la grâce et pour persévérer dans l'obéissance. Et d'ailleurs, Paul lui-même le dit aussi à ses lecteurs, juste avant ce verset, il dit « Faites fructifier votre salut », c'est-à-dire « Faites votre part dans votre vie de chrétien ». Oui, c'est vrai, nous avons notre rôle, clairement. Mais néanmoins, ces paroles sont là, et elles restent sans ambiguïté. Et si Dieu prend effectivement en compte notre part au cœur de la sienne, il n'en demeure pas moins que c'est lui qui agit et que lui seul a le pouvoir de produire vraiment en nous le vouloir et vraiment en nous le faire. Et donc, par conséquent, tous les actes, héroïques ou non, qui vont avec. Dépendre de Dieu, c'est accueillir l'influence de Dieu en nous. C'est le laisser faire chez nous. Et je trouve ça tellement beau. Dieu a promis qu'il allait agir dans nos cœurs. Il va donc le faire, puisqu'il l'a promis. C'est une promesse. Et on aurait tout à gagner à croire, peut-être parfois de manière plus tangible, je parle pour moi en tout cas, on aurait tout à gagner à croire aux promesses que Dieu nous fait. On aurait tout à gagner à les prendre vraiment pour nous. À les recevoir, comme le disait un auteur, tel un chèque signé de la main de Dieu, c'est-à-dire en comptant réellement sur leur accomplissement. Car, disait-il, Dieu n'encourage aucune espérance qu'il ne puisse réaliser. Oui, comme il le promet, dépendons de son action. Et même, je dirais, désirons et réclamons son action en nous, en croyant qu'elle aura effectivement lieu d'une manière ou d'une autre. Et finalement, on s'en rend compte, c'est pas si passif que ça comme attitude. Parce que chercher à dépendre de l'intervention de Dieu est une démarche qui nous invite concrètement à la confiance et à la foi. Avoir foi que Dieu va vraiment agir. Et là, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à David. David qui s'attendait bel et bien à ce que Dieu agisse réellement dans son combat face à Goliath. Parce que sinon, il était mal barré quand même. Mais il dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » David s'attendait à son Dieu. David dépendait de son Dieu. Et en cela, il est un témoin pour nous. Ayons confiance dans les promesses de Dieu. Ayons confiance dans leur application véritable dans nos vies et dans nos cœurs. Ayons confiance dans l'action de Dieu en nous et réclamons-la. Et donc, nous avons notre cercle qui est complété. Dépendre de Dieu, de sa grâce, de sa volonté, de son action. Et moi, j'aime bien l'idée du cercle parce qu'il nous montre bien qu'il n'y a pas de début et pas de fin, pas d'ordre. Non, les trois clés de la dépendance dans la vie chrétienne ne se font pas chronologiquement, mais elles doivent avancer ensemble de manière équilibrée pour que le cercle puisse tourner correctement. Et c'est donc en vivant cette dépendance que nous vivrons notre vie de héros selon Dieu, comme les célèbres héros de la foi d'Hébreux 11, comme un sarment fondé sur le cep. Chacun où il en est, bien sûr, chacun avec la force que Dieu lui a accordée, chacun petit à petit. Mais en dépendant ainsi de Dieu, soyons sûrs que chacun d'entre nous fera une différence là où il se trouve. Et finalement, c'est un peu ça l'héroïsme, non? Mais, et il faut aussi le dire, cela ne se fera pas sans combat. Et les guerres d'indépendance en nous, quelles qu'elles soient, seront même légion. Parce que oui, il est et il sera difficile de persister dans la grâce. Pourtant, c'est vrai, ça a l'air si simple. Mais paradoxalement, rien ne nous sera moins naturel que le lâcher prise et rien ne nous sera moins confortable que la liberté en Christ. Et l'histoire nous l'a montré et ma vie me le montre malheureusement si bien encore. Il est bien plus facile de chercher à maîtriser les choses ou à dresser pour nous ou pour les autres nos propres listes de règles et de mérites. Oui, il sera aussi difficile de persévérer dans la volonté de Dieu. C'est une évidence, sans s'endormir dans la vie confortable qu'offre le monde, sans faire passer nos aspirations avant les siennes, ou encore sans se laisser prendre par la séduction et la facilité du péché. Et puis oui, enfin, il sera difficile d'apprendre à faire confiance à Dieu, de se jeter à l'eau de la foi, pour de vrai, plutôt que de continuer à apprendre à nager en faisant les mouvements sur le tapis de notre salon. Oui, il est difficile de dépendre de Dieu. C'est même un peu héroïque. C'est en tout cas tellement contre nature pour nous, contre notre nature pécheresse en tout cas. Et depuis toujours, n'est-ce pas ? Rappelons-nous que c'est justement une volonté d'indépendance qui a été le premier des péchés, celui qui a entraîné tous les autres, celui qui fit jadis tomber Adam et Ève. C'est une certitude. La dépendance demande une grande persévérance. Et c'est chaque jour qu'il nous faudra mener ces guerres pour notre dépendance. Notre déclaration de dépendance a été signée à la croix, mais il nous faut encore la vivre jour après jour. Alors béni soit Dieu qui nous accompagne dans ce chemin. Et béni soit Dieu qui va nous montrer, faisons-lui confiance, chaque jour et face à chaque événement, comment tourner dans notre cercle, comment nous emparer de la profondeur de sa grâce, comment maintenir le cap de l'obéissance et comment s'appuyer de tout notre poids sur lui et sur son action. Laissons-nous conduire par notre Dieu dans cette voie-là et laissons-nous conduire sans restriction. Quelqu'un disait, on ne sera jamais trop enfant pour Dieu. Et je trouve que l'idée est belle. On ne sera jamais trop enfant pour Dieu, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais trop dépendant de Dieu. On ne se reposera jamais assez sur lui. sur la paix et la sérénité qu'il nous offre. On ne marchera jamais trop dans sa volonté, cette volonté qui est bonne et parfaite pour nous. On ne laissera jamais trop de place à l'action de l'Esprit-Saint dans nos vies pour qu'il nous modèle, pour qu'il nous façonne à son image. Comme un petit enfant ne compte que sur ses parents pour le guider, le porter et prendre soin de lui, eh bien, comme un petit enfant, dépendons de notre Père. Entrons, jour après jour, dans la danse de la dépendance. Demeurons en lui. Abandonnons-nous à lui, pardon. Encore et toujours. C'est un cadeau offert à chacun de nous tous, sans exception. Pour les populaires et pour les autres. Pour les costauds de la vie et pour les autres. Pour les riches et pour les autres. Pour les héros et pour les zéros. Pour toi et pour moi. Qui voudra dépendre de Dieu? Qui voudra s'abandonner à Dieu? Qui voudra entrer dans la danse de notre Dieu? Si tel est votre désir, nous vous invitons maintenant, avec le groupe de jeunes, à vous approprier les paroles et les mouvements, je dirais, les mouvements du cœur de la danse que les jeunes vont vous interpréter.
Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, nous voudrions te demander pardon. Pardon pour toutes ces fois où nous comptons sur nos propres efforts, alors que nous devrions nous tourner vers toi, toi qui sais ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, nous te demandons, fais de nous des héros de la foi. Apprends-nous à te faire confiance, à dépendre de toi en toutes circonstances, Seigneur. Oui, viens régner en maître sur nos vies. Amen.